France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Ce matin, nous parlons d'Héraclite et de Diogène, deux philosophes très tourmentés par le langage. Dans cette série sur les philosophes qui n'ont rien écrit, ce quatrième épisode est un peu décalé. Car Héraclite et Diogène ont écrit, nous le savons. Et s'il nous reste seulement quelques morceaux de leurs œuvres, voire des fragments, on ne le doit qu'à des problèmes de transmission historique de leurs textes. Cela dit, ces deux philosophes grecs de l'Antiquité étaient très sensibles à ce qui, dans les discours, dans le logos, comme disaient les Grecs, est insatisfaisant, problématique, difficile à admettre, exigeant précisément de l'attention. Et ce point les relie à plusieurs philosophes examinés cette semaine, Socrate, Pyrrhon, Épictète, des philosophes qui ont refusé l'écriture. Il y a même, dira Nietzsche plus tard, une dette de Pyrrhon et des Pyrrhoniens envers Héraclite. Il y a aussi une certaine dette du stoïcisme, dont nous avons parlé hier en évoquant Épictète, une dette du stoïcisme envers Diogène et l'école dite cynique. Et puis Diogène de Sinope, qui nous occupera pas mal ce matin, trouvait Platon bien trop dialecticien, bien trop bavard, notamment à l'écrit pour être considéré comme un fidèle disciple du grand Socrate, Socrate qui, lui, était si justement méfiant envers l'écriture. Bref, dans cette série sur les philosophes qui n'ont rien écrit, s'arrêter sur Héraclite et Diogène s'imposait malgré tout. Au fond, ces deux-là auraient pu ne pas écrire. Bonjour Hans Wiesmann.
Bonjour.
Vous êtes un philosophe et un philologue franco-allemand. Vous avez produit sur Héraclite des travaux qui font date, notamment un ouvrage coécrit avec Jean Bollack, Héraclite ou la séparation, publié aux éditions de Minuit en 1972 et bien sûr réédité depuis. Et bonjour Étienne Elmer.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la philosophie économique, politique et sociale de la Grèce ancienne, notamment du Diogène de Sinope. Je renvoie notamment à votre livre Diogène le cynique, paru aux éditions Les Belles Lettres en 2017. Bienvenue à tous les deux. Alors, une chose est troublante à propos d'Héraclite et de Diogène. Ils sont souvent évoqués comme des philosophes sentencieux, aimant les bons mots, les phrases mystérieuses, alors qu'en vérité, vous allez le montrer ce matin, le langage et ses théâtralités les inquiétaient beaucoup. Commençons néanmoins par le poncif, peut-être. Écoutez, dans ce film, cet extrait de Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier, le prétentieux ministre, incarné par Thierry Lhermitte, qui met pompeusement Héraclite à toutes les sauces, y compris lorsqu'il doit régler une affaire de pêche et d'anchois.
Le problème du monde aujourd'hui, ça n'est pas l'anchois. Le problème du monde, c'est la peur. Tout est là-dedans. Héraclite, la foudre gouverne tout. La foudre gouverne tout. Mais c'est pas rien, ça. Et puis c'est net. Arthur, creusez-moi ça et faites-moi un argumentaire qui ressemble à quelque chose. Tout est là-dedans. La foudre.
Je comprends rien, cette histoire d'anchois.
Tu peux pas plutôt essayer de trouver deux ou trois citations d'Héraclite et de construire un truc qui a l'air à peu près normal à partir de ça.
Bon. Les porcs se complaisent dans la fange plutôt que dans l'eau pure.
Comme disait Héraclite, les anchois se complaisent dans les eaux espagnoles plutôt que sur les bateaux français.
Ben allez-y, mais gobergez-vous. Je suis encore obligé de vous mâcher le travail. Je vais quand même pas tout vous stabiloter moi-même non plus. Tenez, au hasard, pour les hommes, que se produisent ce qu'ils souhaitent n'est pas mieux. Eh bien, c'est pareil pour les pêcheurs. Plus ils pêchent, moins il y a d'anchois.
Et vous entendez les rires et les remarques des conseillers de ce ministre héraclitéen, enfin paraît-il. Et en particulier, c'est Niels Harestrup qui interprète le directeur de cabinet. C'est vraiment sans rapport, n'est-ce pas, Hans Wiesmann, avec la complexité du rapport au langage d'Héraclite. À moins que vous me disiez que Héraclite a parlé d'anchois et que ses sentences peuvent être utilisées ainsi par un ministre.
C'est pas nécessairement la question des anchois et de la pêche, mais il y a quelque chose de très profond dans le fait que la vulgate héraclitéenne, qui n'a rien à voir avec la pensée d'Héraclite, qui est une sorte de emprunt pratique dont on se sert dans des situations dans lesquelles on veut soit en imposer, soit imposer quelque chose que les autres n'avaient pas pensé comme on voudrait qu'ils le pensent. Mais tout cela, et c'est là que le terme vulgate, que Nietzsche utilise d'ailleurs pour dénoncer la manière dont la pensée des grands présocratiques a été transmise.
On en fait des prophètes.
On en fait toutes sortes de choses, même des choses complètement contradictoires. Mais pour savoir ce qu'ils étaient, le problème, c'est qu'il faut s'en remettre à leur écrit.
Oui.
Et c'est tout le problème de notre conversation de ce matin, parce qu'il y a des philosophes qui n'écrivent pas comme d'autres écrivent pour exposer en long et en large leurs pensées. Il y a des philosophes qui écrivent par des gestes, par exemple. Or, il y a plein de gestes héraclitéens qui valent bien des paragraphes entiers d'un livre écrit.
Un geste d'écriture, vous voulez dire ?
Par exemple, quand il invite des gens dans sa maison, il faut s'imaginer qu'il était au four, dans la cuisine, il leur dit « Entrez, entrez, ici aussi il y a des dieux ».
Ah oui ? Ça veut dire quoi ?
Notre personnage étrange aurait pu dire ça.
Oui.
Ou à la fin de sa vie, quand il quitte la ville pour dire son mépris pour la population ignare, etc. Et il s'ensevelit lui-même, je crois, dans un tas de fumier parce que ça fait chaud. Alors, à l'arrière-plan, il y a l'idée que le feu gouverne toute chose. La foudre, comme dit le ministre.
Comme dirait Thierry Lhermitte, incarnant ce ministre,
voilà,
oui.
Voilà. Et donc, il reçoit ses disciples dans cette fange et leur explique que là aussi, il y a des dieux. Parce qu'à l'arrière-plan, il y a l'idée que tout ce qui est feu est divin. Et la véritable difficulté consiste maintenant à se demander en quoi le feu se distingue de l'eau, de l'air, de l'éther même, parce que c'est une position philosophique qui se dessine à travers ce privilège accordé au chaud et au feu.
Alors on va parler en détail de, notamment du feu, car votre interprétation, c'est que ce dont parle Héraclite essentiellement, c'est du langage lui-même, ouais. Du logos. Nous allons longuement développer. Juste une petite introduction biographique. Que sait-on d'Héraclite ? On sait qu'il vivait à la charnière du 6e et du 5e siècle avant Jésus-Christ, ouais. Qu'il était un peu misanthrope, comme vous venez de le suggérer. On disait de lui qu'il était l'obscur. Ou...
Il était méprisant.
Il était méprisant.
Alors, en réalité, il était basileus. C'est-à-dire qu'il était d'une famille noble appelée en principe à régner sur la ville d'Éphèse.
Oui.
Et donc, il a refusé tout cela. Il est antipolitique au dernier degré. Et il incarne un refus qui va donc jusqu'à l'exil, puisqu'il quitte la ville d'Éphèse pour mourir, en disant que si vous voulez savoir ce que je pense, il faut que vous veniez me rejoindre en dehors de toute connivence déjà établie et institutionnalisée. Et donc c'est cette séparation, ce geste de rupture.
C'est le mot-clé pour votre propre approche, la notion de séparation, que le langage... Voilà. Je vous propose qu'on creuse vraiment cet aspect.
Ouais.
Je voudrais introduire maintenant Diogène, car d'une certaine façon, c'est encore pire. Étienne Elmer, les caricatures qu'on fait de Diogène le Sinope, tout à fait théâtral, plein de bons mots, d'amour de la phrase, alors que vous allez nous le dire ce matin, nous l'expliquer. Les choses sont bien plus complexes que cela le concernant. Écoutez cette adaptation d'une nouvelle de Marcel Aimé en 1930 sur la RTF.
Hé, Diogène, ne vois-tu donc pas les gens ? Dis-moi, qu'est-ce que tu peux bien faire de cette lanterne ?
Diogène parut s'éveiller et prononça...
Je cherche un homme.
Ah, et qui donc ?
Un homme.
Ah, peut-être as-tu oublié dans quelle rue il demeure, si je puis te renseigner.
Déjà, le cynique s'impatiente.
Mais puisque je te dis que je cherche un homme...
Oui, j'entends bien, quoique je m'explique assez mal pourquoi tu portes cette lanterne allumée.
Alors Diogène ne se retint plus d'injurier l'archonte. Il s'éloigna, déplorant en lui-même qu'un magistrat d'Athènes pût avoir un tour d'esprit aussi peu métaphysique.
Enfin... Peut-être le répétera-t-il à d'autres qui comprendront.
Où vas-tu, beau garçon, avec ta lanterne ?
Je cherche un homme.
Ah ! Moi aussi. C'est drôle.
Avec une moue de pitié, elle examinait le passant, son vêtement ruiné, sa barbe souillée. Elle proposa, sans conviction...
Tu viens ? Non, bien sûr. si tu cherches un homme. Oh, je voudrais pourtant bien en trouver un. C'est pas facile, on croirait pas.
Alors, cette nouvelle de Marcel Aimé date de 1930, mais la RTF, l'adaptation que vous entendez là, était diffusée en 1957. Oui, cherche un homme, c'est, vous allez nous expliquer ce que ça veut dire, Étienne Elmer, mais on en fait un peu des kilos, hein, avec l'attitude théâtrale, le rapport au bon mot supposé de Diogène.
Oui, alors, Diogène est effectivement connu, ou souvent connu pour son aspect théâtral, on le rapproche ses interventions même de la performance dans l'art contemporain. Il a des mots scandaleux, des gestes déplacés. Donc ça, c'est la face visible de Diogène. Et je pense que la discussion d'aujourd'hui va permettre de montrer qu'il y a aussi un Diogène plus en retrait, au bord du silence même, d'une certaine manière. Parce que, comme vous l'avez dit, son rapport au langage et à l'action est un rapport tourmenté. L'anecdote « Je cherche un homme » est évidemment une anecdote célèbre.
Alors, je vous écoute.
Alors bon, cette anecdote a donné lieu à de nombreuses interprétations. L'une d'entre elles est quand même, qui engage également un rapport au langage, tient au fait que il s'agirait de chercher un exemplaire de l'humanité qui corresponde à ce que serait vraiment un homme. C'est-à-dire que derrière ça, il y a l'idée d'une définition de l'homme qu'il reste à déterminer, et dont on se demande comment elle peut être adéquate au comportement des êtres humains tels qu'on les observe.
Donc c'est la société qui a rajouté des couches de maquillage et de plumes à tous ces humains, et quand il dit « je cherche un homme », c'est un homme nu, enfin nu, des apparats mensongers que la vie sociale... Mais sur eux, j'en fais un peu un ancêtre de Rousseau, mais pourquoi pas finalement ?
Oui, alors il y a un peu de ça, et il y a surtout cette idée, je crois, que l'humanité, selon Diogène, s'incarne dans des rapports d'égalité. Je pense que Diogène est un philosophe politique, en fait. C'est-à-dire que c'est des rapports d'égalité, de justice et de vérité. Et ce que nous savons de Diogène et de son observation du monde social qui l'entoure, c'est que la société est régie par la violence. Et donc, les hommes tels qu'ils les observent sont des hommes violents.
Et le langage fait partie de cette violence ?
Eh bien, le langage est effectivement utilisé de manière à imposer des rapports de pouvoir en fabriquant des opinions. Et le rapport que Diogène va proposer à la langue, aux mots, et on le verra aussi sans doute à l'écrit, consiste à épurer le langage pour retrouver finalement le sens propre des choses, d'où cette invitation à retrouver un homme qui soit vraiment un homme, c'est-à-dire un homme guidé par la vérité et la sagesse, si on peut dire.
Alors là aussi, s'il vous plaît, quelques précisions biographiques. Il naît, Diogène, à Sinope, en 413 avant Jésus-Christ. Il a à peu près 15 ans de moins que Platon. Il naît dans une famille aisée, c'est un point commun avec Héraclite. Son père était banquier, il supervisait des opérations de change. Et puis un jour, son père, il a été accusé de falsifier de la monnaie. Et donc il a dû partir, alors en tout cas Diogène est parti de Sinope à Athènes, peut-être avec son père. C'est un moment très important car Diogène, avec ou sans son père, va découvrir la frugalité, la sobriété matérielle en arrivant à Athènes.
Oui, alors concernant l'anecdote elle-même... les hypothèses sont variées. Il y en a une qui dit que ce serait Diogène lui-même qui aurait falsifié la monnaie, et non pas simplement son père. En tout état de cause, effectivement, il va quitter Sinope. Et une anecdote raconte que c'est quand on le demande ce que lui a permis l'exil, il dit c'est de découvrir la philosophie, c'est de devenir philosophe d'une certaine manière. Deuxième point, c'est qu'il y a un rapport tout de suite très intéressant de Diogène à l'argent et à la banque.
Parce que son
père était le banquier de la ville de Sinope, dont la fonction était principalement de certifier la valeur des monnaies en circulation. Et donc falsifier la monnaie, c'est un geste évidemment extrêmement grave, puisque cela ruine la valeur de la monnaie, les échanges économiques ne peuvent plus avoir lieu d'une certaine manière. Donc, et deuxièmement, il y a aussi cette idée que les pièces de monnaie sont des symboles politiques. Chaque cité frappait sa monnaie, et donc c'est une manière de ruiner complètement l'assise politique et économique d'une cité.
Et puis les échanges même verbaux, enfin la question du langage, et si la monnaie est fausse, les mots peuvent l'être aussi, M-O-T-S.
Eh ben exactement, voilà. Ce parallèle entre monnaie et langage est effectivement très présent. Quelle est la valeur des mots ? Pour ça, et alors pour ça, il faut, comme un petit, c'est peut-être un point commun avec Héraclite d'ailleurs, il faut rompre, il faut partir, il faut sortir.
Vous pensez aussi à Heinz Wissmann que la séparation qui est votre grand mot. Hein. D'ailleurs, au-delà, à mon avis, d'Héraclite, je trouve que dans beaucoup de vos écrits, oui, c'est un enjeu très fort. Vous pensez aussi que pour Héraclite, il fallait une forme d'arrachement. Il est resté arrachement, pour le coup, à la famille des humains. Lui qui était si misanthrope, méprisant, antipolitique. Alors, il n'est pas antipolitique, Diogène. Enfin, c'est un rebelle majeur. C'est un point commun, cette séparation entre les deux auteurs que nous étudions
surtout,
ce matin.
Si vous permettez, il faut surtout éviter de réduire ce concept de séparation à la seule dimension biographique ou psychologique.
Oui, bien sûr.
En fait, c'est un geste philosophique, profond. Or, de quoi s'agit-il exactement ? Nietzsche l'avait parfaitement vu, d'ailleurs, dans son petit écrit « Élédie » sur la naissance de la philosophie à l'époque de la tragédie grecque. Il dit que la philosophie naît de la mythologie qui est toujours dualiste, chaud-froid, homme-femme, etc., par l'affirmation que tout est un. Tout est haut, tout est air, tout est selon les philosophies, mais chaque fois cette inscription de l'unité dans une réalité matérielle vaut simplement l'affirmation de cette unité. Il s'agit, si on dit comme Thalès, tout est eau, il s'agit ensuite de montrer que tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on rencontre peut être de l'eau, par condensation ou raréfaction. Et alors, Héraclite se trouve confronté à cette espèce de philosophie première, qui est la philosophie de l'un triomphant. Et comme il s'intéresse au langage, dans lequel cette thèse de l'unité est affirmée, eh bien, il va soutenir que le langage s'inscrit en faux à l'égard de ce qu'il dit. Et il met en garde les premiers philosophes de ne pas savoir ce qu'ils disent, parce qu'ils n'entendent pas les mots qu'ils utilisent pour signifier quelque chose qu'ils ont en tête sans le mot.
Je vous propose qu'on écoute.
Je donne un exemple, comme ça, c'est clair.
Bien sûr, bien sûr.
Il y a un fragment, parce que tous les fragments d'Héraclite sont des réflexions sur l'écart qui se creuse entre le langage et ce que le langage dit. Et donc, c'est une dualité complètement différente de la dualité mythologique, qui, elle, est parfaitement établie et sans torture. Tandis que cette dualité qui vient de la séparation d'avec lui-même du langage qui devient signifié au prix d'un signifiant qu'il ne se réduit jamais au signifié. C'est de cette séparation qu'il s'agit. Eh bien, un exemple, il y a un fragment qui dit que... Il faut que je ne transforme pas. Le nom de l'arc... Vie, son œuvre, mort.
Vous pouvez répéter ?
Le nom de l'arc, vie, son œuvre, mort.
Mais je vous écoute pour comprendre
ça. Comment peut-on comprendre ça ? C'est qu'en grec archaïque, le mot pour désigner l'arc, c'est bios. Or, bios veut dire vie. Et donc, le nom de l'arc étant vie, eh bien, les gens n'entendent pas que la mort, que cet objet qui est l'arc, provoque, est en réalité dans une relation indissociable avec son contraire, la vie. Et donc, tout ce que nous sommes capables de désigner dans la cohérence de son identité qui coïncide avec elle-même, tout cela est finalement dans une subversion permanente livrée au langage qui, comme le feu, quitte le combustible.
Le feu a la caractéristique de se séparer de lui-même et on allume des feux, on en fait démarrer partout à partir d'un feu premier. Et c'est le langage qui lui-même fait toujours signe vers d'autres lieux que le lieu premier de l'énonciation.
C'est encore un peu plus raffiné.
Oui.
À la différence de l'eau, de l'air, etc., qui peuvent se rassembler dans une identité matérielle réelle. Le feu, quand il flambe, eh bien, il se sépare de ce qui l'alimente. Et donc, le feu ne coïncide jamais avec lui-même. Et c'est pour cela que le feu devient la métaphore de la séparation.
Et ce que vous dites, c'est que finalement, Héraclite ne parle pas autant qu'on l'a cru de l'être.
Non,
il parle du langage.
Il parle du langage. Il met en garde le philosophe de croire que ce qu'il dit et de manière univoque, intelligible, sans son contraire. parce que le langage est toujours séparé de ce qu'il dit. C'est comme entre le dire et le dit. Le dire, c'est le fait de désigner quelque chose, de dénoter du réel, mais ce dire, qui est un acte, ne se réduit jamais au dit. Parce que ce qui est dit capte, d'une certaine manière, sur le mode de la signification, quelque chose qui n'est philosophiquement accessible que si on admet que ça s'alimente de son propre contraire. Et l'ensemble des paradigmes, ou comment dire, parce que c'est pas un texte continu, Héraclite, c'est des paradoxes, des apophthegmes. Alors, chacun des apophthegmes d'Héraclite a pour but de montrer que le langage ne conduit pas à une coïncidence parfaite de toute réalité avec elle-même. Et donc, le projet philosophique initial de dire que tout est un est critiqué. Et c'est une philosophie critique au sens de la krisis, du grec krino, qui veut dire séparé.
Alors, les paradoxes, des effets de sens inattendus, voire contradictoires. On trouve cela chez Diogène aussi. Diogène le dit le cynique, on expliquera un peu plus tard ce mot. Déjà tout à l'heure, je cherche un homme. C'est presque un propos héraclitéen, comme ça, énigmatique, très peu de mots, pour dire beaucoup, pour dire que l'homme se fait rare dans une société pleine de masques. Est-ce que vous diriez, vous aussi, que le rapport au langage, Étienne Elmer, de Diogène, et c'est comme des départs de feu. On ne sait pas très bien où ça va mener. Le feu se sépare de lui-même, c'est un peu inquiétant.
Oui, alors c'est tout à fait. C'est-à-dire que cette question de « je cherche un homme », ça revient plusieurs fois à l'anecdote qui a été qu'on a entendue dans l'extrait de pièce qui a été de lecture qui a été faite. On le retrouve dans d'autres anecdotes où Diogène appelle des hommes se présentent à lui et il dit « j'ai appelé des hommes et non pas des ordures ». Donc, bon, il y a une violence du propos, évidemment.
Mais cherche des hommes et non pas les ordures que voici.
Que voici, donc. Sur le mot homme, qui est un cas vraiment important, il y a effectivement le constat d'un écart entre le sens courant que le terme a et ce que serait le véritable sens de ce mot. Mm-hmm. La question, évidemment, est comment rendre commun un usage du langage qui serait adéquat à son objet. Et c'est peut-être il y aurait un écart hein, entre oui. Entre le mot et sa signification réelle et c'est peut-être cet écart qui rend raison de la méfiance ou plutôt de la distance de Diogène par rapport à l'écriture par rapport aussi au long discours. Les déclarations de Diogène sont toujours très courtes dans les témoignages que nous avons. Il ne fait pas de longs discours. Il critique Platon, vous l'avez rappelé.
Mais on va plus que le rappeler, on va essayer de comprendre. Donc Platon, qui est jugé par le maître... parce qu'il a un maître quand même. Il faut qu'on lui fasse un petit peu honneur. Antisthène. Antisthène, c'est un monsieur qui a bien connu Socrate, en fait. Hein. Il avait une quarantaine d'années quand le procès, la mise à mort de Socrate ont eu lieu. Il avait une mère Thrace, ce qui veut dire qu'il n'était pas un citoyen complet. Hein. Il n'était qu'un demi-citoyen athénien. C'est un point commun avec Diogène, qui vient de Sinope. Et est-ce la raison, la première raison, je dirais factuelle, pour laquelle Diogène est allé dans ce gymnase où enseignait Antisthène, qui était réservé aux demi-citoyens et qu'on appelait le cynosarge? Si j'ai bien compris, il y a le mot chien dedans, sino, mais c'est pas. Je ne sais même pas pourquoi ce gymnase s'appelait comme ça au début. Qu'est-ce que c'est la raison? Il y avait des peintures ou
le chien? J'ignore la raison pour laquelle Diogène est allé, puisqu'on n'a pas d'éléments biographiques très très poussés. Ce qui est certain, c'est que Diogène a rencontré Antisthène, qui est considéré comme un des premiers cyniques. Alors, avec des nuances, certains vont dire un proto-cynique, parce que le cynisme, dans sa version la plus aboutie, va plutôt se constituer avec Diogène. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'Antisthène a beaucoup écrit. On estime que ces ouvrages ont été condensés en 10 tomes.
Et il est très fâché contre Platon.
Et il est très fâché contre Platon. Alors, il est très fâché contre Platon parce que, alors, c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver chez Diogène. Oui. Tout ça a à voir avec une théorie du discours, du langage. Pour Antisthène, au fond, nous ne pouvons que le langage ne peut que manifester les choses et pas tellement les signifier. C'est-à-dire qu'au fond, cette théorie qu'on appelle la théorie du discours propre consiste à dire que le logos, dont il a été question, ne peut dire que ce que sont les choses ou ce qu'elles étaient. Rendre évidente ou manifester ce qu'étaient les choses ou ce qu'elles sont. Et manifester, ça n'est pas dérouler une liste d'attributs, comme le ferait une définition analytique qui dirait, eh bien, tel objet a telle et telle et telle propriété. Autrement dit, le discours est immédiatement connecté à de la pratique. C'est-à-dire que je ne peux bien faire usage d'un discours qui manifeste que si je l'accompagne d'un geste. Je vais dire cette bouteille qui est posée devant moi.
Ce qui fait un peu écho à la notion de geste qu'évoquait tout à l'heure Hans Wismann à propos d'Héraclite. Donc là, il y a vraiment un point commun. Et si j'ai bien compris, Antisthène trouvait que Socrate était génial. Il était un geste à lui tout seul. Et il n'a pas écrit, il mêlait le corps, pour le coup, l'incarnation au logos. Il ne laissait pas des traces écrites sans corps, vivant. Par contre, Platon, c'est tout le contraire, et ce n'est pas un vrai disciple de Socrate. Antisthène pensait qu'il fallait rendre honneur bien autrement à Socrate.
Oui, alors Platon a effectivement produit beaucoup et avec une forme littéraire extrêmement travaillée, extrêmement recherchée. Je crois que dans tous ces cas-là, en fait, la grande difficulté ou un point commun, c'est la question de l'articulation entre une ambition théorique d'accès à la vérité et ses enjeux pratiques. C'est-à-dire comment articuler un discours de vérité avec ce qu'une vie requiert pour être bonne.
Et quelle est la vie de Diogène et déjà d'Antisthène? Pour eux, vraiment, être sage, avoir un rapport simple au langage, plein d'incarnation, c'est quoi? C'est vivre alors dans un tonneau pour Diogène? C'est vrai d'ailleurs, on peut vivre dans un tonneau, c'est pas une blague ça, l'histoire du tonneau?
Alors c'est probablement pas une blague, d'autant que ce tonneau est vraisemblablement une très grande jarre, en fait. Très grande jarre qu'on peut retrouver représentée de différentes façons. C'est pas impossible. Ça ne veut pas dire que Diogène vivait tout le temps là. Diogène a pu vivre ou dormir sous les porches des temples, hein, comme il le dit. Enfin, comme les témoignages le disent. Mais pour revenir à votre question, oui, c'est dans l'action... C'est dans le comportement du corps...
Dans le dénuement aussi.
Dans le dénuement que, finalement, un idéal de vie qui peut être théorisé, finalement, va trouver son lieu de vérité, en fait. C'est-à-dire que le lieu de la philosophie se joue entre un usage nécessaire du langage, ce ne sont pas des philosophes qui font vœu de silence... Mais en même temps, une méfiance vis-à-vis du langage et de son adéquation à ce qui est vrai va déboucher sur un accent mis fortement sur les conduites, les pratiques et les gestes.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
Héraclite et Diogène, deux philosophes de l'Antiquité très tourmentés par le langage. C'est avec eux que nous terminons cette série de cette semaine consacrée aux philosophes qui n'ont rien écrit. Alors, ils ont écrit tous les deux, mais on se dit qu'ils auraient pu ne pas, car vraiment, le logos était un objet de contrariété, de tourment pour les deux. Vous avez beaucoup évoqué Nietzsche, donc je suis en compagnie d'Hans Wismann, c'est un honneur. Je suis vraiment très heureuse de vous entendre sur Héraclite. Vous avez écrit des travaux qui ont fait date. Et pour Diogène, Étienne Elmer vient de nous expliquer beaucoup de choses très importantes. Hans Wismann, vous avez cité Nietzsche qui, je crois, à vos yeux, a une très bonne lecture d'Héraclite, peut-être meilleure que celle de Heidegger. Nous allons y revenir. Je vous propose d'écouter un texte de Nietzsche consacré précisément à Héraclite.
L'opinion commune croit reconnaître quelque chose de fixe, d'achevé, de constant. Alors qu'en réalité... Lumière et obscurité, amertume et douceur sont à chaque instant associés et reliés l'une à l'autre comme deux lutteurs dont tantôt l'un, tantôt l'autre prend l'avantage. Pour Héraclite, le miel est à la fois amer et doux. Et le monde est lui-même une coupe à mélange qui doit être constamment agitée. Tout devenir naît de la lutte des contraires. Les qualités définies, qui nous semblent durables, n'expriment que la suprématie momentanée de l'un des combattants, mais la lutte n'en continue pas moins. Le combat se poursuit, éternellement. C'est en fonction de ce combat que tout ce qui se produit advient, et c'est précisément ce combat qui révèle la justice cohérente et sévère liée à des lois éternelles. Seul un Grec était en mesure d'inventer une telle conception pour en faire le fondement d'une cosmodicée.
Heinz Wismann, Nietzsche écrit cela en 1873. Il évoque notamment un exemple fameux pour les Pyrrhoniens dont nous avons parlé, nous, dans cette série, car Pyrrhon n'a rien écrit, est le père d'un scepticisme radical. Et la phrase favorite des Pyrrhoniens, c'était « Mais le miel est doux d'un certain point de vue, mais il est aussi amer d'un autre point de vue. » Autrement dit, nous ne savons pas ce qu'il est. Et Nietzsche dit « Mais au fond, ça, c'était une déclinaison d'Héraclite et de ce qu'il avait compris dans la contradiction logée à l'intérieur même du langage. » Vous êtes d'accord ?
Totalement d'accord, à une nuance près. Ce que Nietzsche met en œuvre, c'est évidemment une réflexion sur les effets d'intelligence que produit la théorie du logos comme combat. Donc il applique quelque chose qui est philosophiquement d'un autre niveau que son application. Parce qu'en réalité, ce que Héraclite essaye d'imposer, c'est la brisure de cette prétention de réduire l'ensemble de ce qui est à l'un. Le mot « logos » veut dire « relation » comme « ratio ».
Donc le miel n'est pas un, rien n'est un.
Il est une relation à lui-même, mm-hmm. Et le miel, du coup, n'est qu'un exemple.
Oui.
Et je pense que les questions psychologiques et autres, qui sont absolument importantes, dérive d'une réflexion philosophique autrement profonde qui inscrit la philosophie en faux contre sa propre prétention initiale. La philosophie est autocritique à partir d'Héraclite. Jusqu'à Héraclite, elle ne l'était pas. Elle était sur la voie triomphale de dire ce qui est sous la forme d'une unité qu'on puisse appréhender grâce au logos.
Celui que vous visez là, est-ce Parménide, celui auquel on a parfois opposé Héraclite ?
Oui, Parménide.
Qui était Parménide ?
Mais Parménide, qui était en Italie du Sud, il était un de ces Grecs de la périphérie, c'est extraordinaire de se dire que la philosophie naît à la périphérie du monde grec, en Asie mineure et en Italie. Athènes va être usurpatrice d'une chose qui, dès le départ, est excentrée.
Séparée.
La philosophie est un arrachement favori à l'évidence immédiate.
C'est une notion très importante. C'est dans la séparation que les choses se font.
Il faut passer par là.
Oui.
Mais à l'intérieur de cette philosophie excentrée qui affirme l'un contre le dualisme mythologique, il y a encore une contradiction à creuser parce que cette affirmation de l'un se fait à l'aide de quelque chose, à savoir le langage, qui ne se réduit pas à l'un qu'il dit, puisqu'il est séparé de ce qu'il dit. D'où la distinction que j'avais avec Pollack introduite entre le dire et le dit. Le dit, c'est l'identité d'un objet, c'est la manifestation. Et ensuite, le dire est le geste par lequel cette dit prend son sens. Et le dire ne coïncide jamais intégralement avec le dit. C'est pour ça que l'apophthegme, que le nom de l'arc vit son œuvre mort, dit parfaitement cette chose irréductible qui est la séparation que le langage instaure au moment même où il prétend dire l'unité du réel.
Il y a évidemment une phrase très connue, peut-être ça fait partie des poncifs sur Héraclite, « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Vous en avez une interprétation très différente de l'habituelle, qui est de dire « tout passe
oui. »,«
il y a du devenir ». Que dites-vous à propos de cet aphorisme d'Héraclite, Heinz Wismann ?
Dans l'histoire du fleuve, on pense, dans la tradition qui en fait tu vois, c'est une sorte de mot-clé qui dit, pour les Héraclitéens de tout poil, qu'il n'y a rien de fixe. Mm-hmm. Tout s'écoule. Mais ils pensent qu'à l'eau. Alors que l'eau seule ne fait pas un fleuve. Le fleuve a besoin des berges.
Oui.
Et donc, ce qui fait qu'un fleuve s'écoule, c'est la pression des berges. Or, la pression des berges, c'est un logos, c'est-à-dire une relation d'opposition. Mm-hmm. Donc, le fleuve n'est transformation incessante du réel, etc., qu'on ne peut pas capter à un moment X, mais grâce à quelque chose qui est l'exact contraire de ce flux, puisque ce sont les berges dans leur stabilité d'opposition, dans leur combat ou conflit, qui produisent le devenir. Le devenir est donc lié à l'identité et à la stabilité de l'opposition.
Donc c'est le langage, pour, selon vous, et, ça, et selon Héraclite, qui permet justement qu'il y ait du devenir. Parce qu'il faut, il introduit de la contradiction. Entendu. Alors pourquoi dites-vous que Heidegger, je crois que vous le dites, mais vous allez le préciser, était moins subtil que Nietzsche là-dessus dans son rapport à Héraclite? Il faut préciser que Heidegger a donné un séminaire quand il a de nouveau eu le droit d'enseigner, en 1966-67 à l'université de Fribourg avec Eugen Fink, consacré à Héraclite. Et lui, il a un peu appuyé sur la touche... L'être est un, c'est ça, et c'est une erreur, selon
c'est
vous, Heinz Fissmann.
Une erreur profonde. Oui. L'être est en rupture avec lui-même. Et avec Heidegger, on peut penser contre Heidegger, parce que Heidegger, c'est quand même très profond. Mais appliqué à Héraclite, ça devient exactement la Vulgate, selon laquelle les interprètes qui soutiennent que tout s'évanouit, tout disparaît, tout est en train de se déplacer sans arrêt, eh bien, ça peut être l'identité de la négativité même de l'être. Mm-hmm. Ce qui n'est pas totalement absurde ou dépourvu de sens.
Attendez, répétez, parce que c'est quand même assez complexe. L'identité de la négativité, vous
la
voulez dire que...
La négativité pensée...
La négativité, donc le contradictoire, c'est l'identité
elle-même. La métaphore de l'être. Mm-hmm. Et donc... Tous les mots d'Héraclite deviennent, pour Heidegger, des dits de l'être.
Mais Nietzsche l'a mieux dit, selon vous?
Alors, Nietzsche dit qu'il y a un autodéchirement, quelque chose qui ne se laisse pas du tout ramener à quelque chose qui serait une signification une.
Alors que Heidegger a tout rassemblé.
Heidegger, il veut que Héraclite dise tout le temps la même chose, qu'il dise simplement ce que l'être est.
Et
donc les mots de l'être, les dits de l'être, comme dit Sage de Sainz, c'est une manière de faire d'Héraclite un philosophe pré-socratique comme tous les autres. Alors que Héraclite s'inscrit en faux contre la philosophie pré-socratique naissante.
Vous ne croyez pas que accentuer comme cela le contradictoire, la négativité comme vous dites, c'est en fait refuser le concept d'identité? Ça va encore plus loin, c'est pas juste l'identité de l'être qui est le négatif, il n'y a même plus d'identité de l'être. Je vais un peu plus loin.
Non, j'entends ce que vous dites, mais je dirais les choses autrement, je dirais il n'y a de non-identité qu'à la faveur de l'identité postulée. Parce que, prenez de nouveau l'exemple du fleuve, mais il y a plein d'autres, l'arc aussi, l'harmonie par exemple, qu'Héraclite a dit, appelle palinthropos, elle va d'un extrême à l'autre. C'est comme le fleuve, la flèche c'est l'eau qui s'écoule, et les bouts de l'arc sont comme les deux berges. Mmh. Et donc le mouvement est soutenu ou provoqué par une pression, par un conflit, et c'est ce conflit qui est dit... dans la phrase que le combat est père de toute chose. Mmh. Et c'est ça que Nietzsche ne reprend que cet aspect des choses, c'est le démontage de l'idée d'une identité de coïncidence parfaite avec soi. Il n'y a pas dans le réel une coïncidence parfaite avec soi. Et donc décrire à travers Héraclite et d'autres pré-socratiques cette quête de l'unité originaire de l'être, eh bien, c'est passé à côté d'un conflit qui se joue à l'intérieur de la philosophie pré-socratique.
Le conflit, j'ai envie qu'on s'arrête sur ce mot que je trouve très éclairant. Héraclite montre que le logos est plein de conflits Et d'une certaine façon, je me demande si Diogène ne le croit pas également, sachant que pour lui, le problème est un peu différent. Vous expliquez bien, Étienne Elmer, que c'est avec le corps que souvent le logos, le discours est en conflit. Il ne laisse pas parler le corps à l'intérieur du langage, il a tendance à le domestiquer. Et d'ailleurs, Diogène pensait que libérer les êtres humains de ce problème, c'était accepter que le corps fasse ce qu'il a à faire, en public, sans honte, faire ses besoins, faire l'amour en public. On écoute un témoignage assez connu de Diogène Laërce, l'historien doxographe de l'Antiquité, bien plus tardif cependant, qui décrit le comportement et les désirs de Diogène. C'est une belle lecture par Daniel Mesguich.
Comme on lui demandait ce qu'il y a de plus beau au monde, Diogène répondit « le franc-parler ». Entré dans la maison d'un professeur où il voyait de nombreuses statues des muses et peu de disciples, il dit « si l'on compte les divinités, maître, tu as beaucoup d'élèves ». Il avait l'habitude de tout faire en public, aussi bien les œuvres de Déméter que celles d'Aphrodite. Et il formulait des raisonnements par interrogation du style. Si il n'y a rien de déplacé à déjeuner, il n'y a rien de déplacé non plus à le faire sur la place publique. Or, déjeuner n'est pas déplacé, donc il n'est pas déplacé non plus de déjeuner sur la place publique. Il se masturbait constamment en public et disait « Ah, si seulement en se frottant aussi le ventre, on pouvait calmer sa faim !» On rapporte encore à Diogène bien d'autres mots, mais il serait trop long de les énumérer vu leur nombre.
Votre commentaire, Étienne Elmer, de ce comportement de Diogène.
Alors, c'est une section bien connue dans laquelle il y a beaucoup de choses. Et d'abord, on pourrait dire qu'il y a deux éléments conjoints, c'est-à-dire une conduite, bien sûr, de Diogène, qui est scandaleuse, bon, très bien. Mais surtout, cette conduite est accompagnée après d'un usage de langage. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement une posture que quelqu'un décrirait de l'extérieur, comme si Diogène était silencieux, mais ces postures sont accompagnées à chaque fois d'un questionnement, d'une exclamation destinée à susciter l'interrogation chez le public ou de la scène ou chez le lecteur de ces anecdotes. Alors, c'est un paragraphe qui porte sur la parésia, le franc-parler.
Alors, je sais. Et le franc agir, si je puis dire.
Et voilà. Alors, ce franc parler, évidemment, vous en avez parlé, il me semble, dans les émissions précédentes.
En effet.
Ça a été bien défini.
Notamment sur Épictète, oui.
Voilà, ça a été bien défini par vos invités. Le franc parler, donc tout dire hein, en grec. Diogène va le doubler d'un tout faire, d'une certaine manière, d'un tout faire, parce que c'est peut-être dans l'inadéquation du langage à son objet, qui oblige à basculer le lieu de la vérité du côté des attitudes corporelles.
Qui sont plus vraies.
Bah, qui seraient plus vraies.
Alors, et qui pourraient habiter plus le langage, c'est ça?
Voilà, le corps serait à lui-même un langage, mm-hmm. et un langage manifeste, un langage qui se donne à lire aux autres et qui est témoin, qui est le témoin de la cohérence que le philosophe s'impose entre ce qu'il pense et ce qu'il vit. Faut pas oublier que avec Diogène, avec les stoïciens dont vous avez parlé hier, nous sommes dans des philosophies qui sont pas simplement des enjeux théoriques ou des pensées théoriques, mais ce qu'on a pu appeler des façons de vivre. Donc il y a un rapport à l'existence, à la vie, qui est extrêmement prégnant depuis Socrate.
Et à l'animalité aussi. Alors là, nous y venons à cette histoire de chien. Les cyniques, ça veut dire ceux qui ont un rapport au chien. Voilà. Alors j'ai évoqué le fait que le gymnase du maître de Diogène... Ça, dans son nom, il y avait le mot chien. Au départ, c'était très neutre, mais finalement, Diogène en a fait quelque chose. De même que les souris qu'il voit près de lui dans son tonneau lui apprennent au quotidien des choses. C'est le cas aussi du chien. Et puis le chien, c'est celui qui aboie, donc qui a un langage qu'il faudrait imiter d'une certaine façon. C'est aussi celui à qui on donne des coups de pied, parfois.
Alors, le chien a beaucoup de... brille dans une espèce de constellation de significations qui sont très intéressantes. C'est vraiment l'animal du philosophe, le chien, depuis Platon au moins, qui lui-même comparait le philosophe à un bon chien de garde. Hein. Alors le chien, outre ce que vous avez rappelé, sa capacité à mordre, à attaquer, qu'on retrouve évidemment dans la conduite de Diogène quand il insulte les gens, par exemple, mais le chien, c'est aussi finalement l'animal qui accompagne l'homme. C'est-à-dire que le chien
le ramène à son corps.
Alors c'est surtout celui qui adopte une perspective décalée. C'est-à-dire si je me fais chien, eh bien je vais observer les conduites humaines non pas dans une distance absolue, mais dans un rapport légèrement décalé qui permet de cibler les incohérences, les faux semblants, les contradictions dont les mots et les conduites humaines sont porteuses. Donc le chien, c'est vraiment aussi c'est ce pas de côté qui permet de révéler.
C'est intéressant, ce pas de côté. J'ai l'impression là que nous, en progressant de cette émission, c'est vrai que Diogène et Héraclite semblent habiter quand même sur des planètes philosophiques très différentes, mais pas tant que ça. Ils ont le problème du pas de côté pour que le langage fasse entendre autre chose que ce qu'on croit qu'il dit. Est-ce que je me trompe, Anne Wiesmann?
Non, non, c'est parfaitement vrai. En vous écoutant, là, je me suis dit, mais il est absolument clair que ce Diogène est un héraclitéen, mais dans l'application de ce que l'héraclitisme, c'est-à-dire comme critique radicale de la prétention à l'unité signifiante accessible, comporte comme provocation. Et cette provocation chemine dans la pensée grecque, à travers le stoïcisme d'ailleurs, c'est très intéressant aussi, le rapport entre théorie et pratique. Quand la pratique s'inscrit dans un rapport avec la théorie qui n'est pas un rapport de coïncidence totale. Il faut que dans la pratique subsiste quelque chose qui relève de l'écart. Et alors, là, il y a beaucoup de choses à glaner pour l'histoire de la philosophie en général, parce que jusqu'à nous, en vous écoutant par exemple, je me suis dit, mais on pourrait parfaitement se plonger dans la pensée des philosophes moraux français, par exemple.
Oui.
On aurait exactement les mêmes problématiques que ces anciens philosophes avaient mises en scène pour la première fois à partir du geste initial de la philosophie, qui est la provocation absolue à partir de laquelle les contradictions se déploient, à savoir que tout est un.
Et ça, il faut
et dans aucune autre civilisation, parce que toutes les grandes civilisations parviennent jusqu'à la dualité des origines en conflit.
Oui, je vais d'ailleurs corriger, c'est pas qu'il faut lutter contre le tout est un, il faut comprendre que dans le tout est un,
c'est
il
ça.
Y a tout est divers.
C'est ça.
C'est ça plutôt.
C'est
et,
ça la chose.
Et l'unité
est
le contradictoire aussi.
Voilà. Et c'est ce que j'appelle la séparation d'avec soi.
Oui.
Et même dans un autre livre, là, dont on a parlé un peu, sur l'esprit européen, mais je dis, mais l'Europe se caractérise
l'Europe,
dans les civilisations du monde qui sont essentiellement tournées vers un dualisme fondateur pour comprendre le réel. Eh bien, l'esprit européen part d'une provocation absolue qui est l'affirmation de l'un qui implique l'auto-séparation d'avec soi, sinon le multiple n'advient pas.
Alors, maintenant, ce sera ma dernière question. Elle est pour vous, Étienne Elmer. Bon, Héraclite, on ne sait pas tout. Il y avait un grand livre, semble-t-il, qu'il a écrit, qu'on a perdu. Bon, c'est difficile de savoir ce que Héraclite pensait des livres. En revanche, Diogène, il a parlé des livres. Et puis les livres, c'est un peu la société et aussi ses apparats. Il avait quelque chose de critique envers l'écrit qui le rapproche de Socrate, du mythe que nous avons lu, un peu critique de l'écriture, dans le Ménon de Platon. Mais il paraît qu'à un moment donné, il a été Diogène précepteur dans une famille. Alors, bon, il y a plein d'histoires. Il aurait été enlevé par les pirates, transporté, puis devenu précepteur. Je ne sais pas si tout cela est vrai, mais c'est le fait qu'il ait été précepteur à un moment de sa vie. Qu'enseignait-il aux enfants? Est-ce qu'il leur interdisait de lire?
Alors, pas du tout. Non seulement il ne leur interdisait pas de lire, mais même il leur lisait des passages de ses propres livres. Mm-hmm. Donc Diogène, vous l'avez rappelé, a écrit. Il aurait écrit des dialogues, des lettres et des tragédies. Donc des œuvres multiples avec des styles très différents. On a quelques fragments qui nous sont parvenus qui permettent de voir que, à travers même ces tragédies, Diogène faisait passer des idées philosophiques. Mais donc Diogène, effectivement, a un rapport avec l'écrit qui semble avéré malgré les divers témoignages qui parfois sont pas complètement se recoupent pas complètement. Enfin bon, globalement, on a affaire à un philosophe qui a écrit, un philosophe qui lisait. Qui pouvait, dans les anecdotes, il cite Homère, il cite Euripide, sans difficulté. Donc le texte écrit est une réalité qu'il connaît. Mais il y a une méfiance et la question est quel usage faire de l'écrit, voilà.
Et donc aux enfants, par exemple, qu'est-ce qu'il leur dit? Je crois qu'il y a un témoignage de Diogène de Laërce qui dit que il leur disait oui, vous pouvez lire, mais par exemple mes livres, vous voyez, c'est bien parce que je donne aussi des abrégés.
Voilà.
Je vous aide à rendre l'écrit utile au quotidien.
Voilà. Alors, ce geste d'abréger, c'est vraiment très important. Ça fait écho à cette idée que la philosophie cynique se caractérise, à la différence notamment du stoïcisme, comme un raccourci vers la vertu. Il faut... là, c'est le chemin court, mais c'est un chemin court difficile. Ce raccourci est exprimé ici par le fait que Diogène abrège les explications de ses propres livres pour les transmettre à ses enfants qu'il éduque. Donc, l'écrit ne doit pas être pensé comme le lieu de la vérité, comme le lieu de la sagesse, mais comme un instrument qu'il faut s'approprier.
Hello, darling.
Je cherche un homme, un homme, un homme, un homme qui n'ait pas de défaut. Je cherche un homme, un homme, un homme, un homme, voilà ce qu'il me faut. Je le voudrais grand, mais pas trop. Si possible, beau, mais pas trop. Ce serait bon, ce serait doux de le voir tomber à mes genoux. Qui resterait à la maison sans regarder la télévision. Un homme qui serait tout à moi et qui me suivrait pas à pas. Qui serait tendre mais viril, superflu mais pas inutile. J'en voudrais un bâti comme ça, comme j'en ai vu au cinéma.
Et je cherche un homme, un homme.
Un homme qui n'ait pas de défaut.
Et je cherche un homme, un homme, un homme.
Un homme, voilà ce qu'il me faut. Sur lui je passerai mes nerfs lorsque je serai en colère.
Ce serait bon, ce serait doux de l'avoir toujours assez génial.
Fidèle au devoir conjugal, si du mais pas inégal. Si vous êtes cet homme-là, monsieur, venez donc, j'aimerais faire du feu. Classique mais original, pratique mais sentimental.
Vraiment, si vous êtes comme ça, n'hésitez pas à emporter-moi. Est-ce que c'est un homme, un homme, un homme, un homme qui n'a pas de défaut? Est-ce que c'est un homme, un homme, un homme, un homme, voilà ce qu'il me faut?
Si vous êtes doux mais costaud, sachant faire la bête à deux dos, avez-vous l'art et la manière de jouer avec votre partenaire?
Et nous finissons avec Zizi Jeanmaire. En sourire donc, avec un sourire lié à cette phrase, je cherche un homme, c'est le titre de cette chanson de Zizi Jeanmaire. Merci beaucoup à tous les deux, Étienne Elmer et Heinz Wissmann, pour nous avoir éclairés sur le logos, le langage, ses contradictions, ce qu'est la critique, beaucoup de choses qui nous permettent de finir cette série sur les philosophes qui n'ont pas écrit, même si, je le rappelle, aussi bien Diogène qu'Héraclite ont écrit. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms, qui cette semaine réfléchit à l'existence. Voici le pourquoi du comment.
Comment peut-on améliorer les conditions d'existence? Dans le langage ordinaire, et il faut redire qu'il a raison sur ce point, on ne distingue pas entre l'existentiel et le vital. Pour nous, par exemple, ce qui est existentiel et ce qui est vital, c'est ce sans quoi nous ne pouvons pas survivre, ce sans quoi la vie s'interromprait. Et ainsi, nous parlons indifféremment des conditions de vie ou des conditions d'existence des uns ou des autres. Il y en a qui ont des bonnes conditions de vie, d'autres qui en ont des moins bonnes, que l'existence existence est plus ou moins facile ou plus ou moins difficile pour les uns ou pour les autres. Pourquoi pourtant y a-t-il une distinction entre les deux qui semble être une distinction d'intensité, une distinction de degré? C'est que, il faut le redire aussi, l'existentiel, ce n'est pas seulement exactement le vital, c'est le vital ressenti par quelqu'un. C'est le vital en tant qu'il est expérimenté par une subjectivité qui vit ce qui est nécessaire ou au contraire ce qui le nécessaire quand il manque, ce qui est, lui rend la vie possible ou ce qui lui rend la vie impossible ou insupportable d'une certaine façon, d'une manière subjective, ce qui l'amène aussi à lutter pour son existence ou lutter pour la vie, comme on dit, avec une expression qui pourtant passe par la subjectivité, qui passe par l'existentiel. Ainsi, d'une certaine façon, tous les conflits mortels entre les êtres humains sont produits par la dégradation des conditions de vie au point où elles deviennent le sentiment d'une condition d'existence impossible, où les conditions objectives de vie donnent le sentiment subjectif d'une existence devenue impossible, où les conflits existentiels sont alors les conflits les plus mortels. Soit parce que les autres ne reconnaissent pas notre existence même, notre existence comme liberté, comme subjectivité, c'est la théorie existentialiste de la lutte à mort, soit tout simplement parce que les conditions matérielles de vie sont trop difficiles pour qu'on puisse supporter l'existence d'autrui, pour que la guerre redevienne la condition apparente et parfois manipulée par l'idéologie de la survie des uns, non pas avec les autres, mais contre les autres. Il y a donc une urgence non seulement dans la reconnaissance politique des uns par les autres et dans l'affirmation de la légitime existence de tous les êtres humains et sans doute aussi de la biodiversité, de la vie sur la Terre, de la coexistence de principes de toutes les subjectivités vivantes sur la Terre, mais il y a aussi le besoin très concret d'améliorer les conditions de vie ou d'existence, les deux termes étant au fond radicalement synonymes, de telle façon que les conditions de vie objectives ne donnent pas le sentiment subjectif d'une existence impossible. C'est toujours la peur ou le besoin poussé à l'extrême qui va rendre l'existence en effet intolérable et l'existence d'autrui fragile ou menacée. La coexistence alors étant fragilisée à l'extrême. La coexistence, ce n'est pas seulement un slogan pour des bonnes âmes, pour des bonnes volontés, pour des bons sentiments. La coexistence, c'est aussi un travail concret de tous les jours qui implique aussi la lutte sur les grands risques climatiques qui suscitent des angoisses qui mènent à la guerre. La coexistence, c'est donc la lutte pour des conditions de vie concrètes qui permettent d'éviter que les conflit entre les humains dégénère en une lutte pour l'existence qui sera alors en effet mortelle. Il faut donc améliorer les conditions d'existence et de vie. Il faut redonner à chacun un sentiment de confiance et de sécurité minimale dans son existence et dans sa vie menacée par des dangers pour que la vie, encore une fois, devienne une existence subjectivement assumable et non pas que les difficultés de la vie donnent un sentiment d'impossibilité d'exister qui ne peut mener qu'à la lutte à mort.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Ludovic Auger. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Chaïma Giboire, Anna Felpin, Philippine de Bellois et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité !